Ouais, c'est normal que les gens ne sachent plus rien. Les études ne sont plus ce qu'elles étaient. De mon temps, on apprenait les départements, les préfectures, les sous-préfectures, Pas-de-Calais, Chef-lieu-Arras, etc.
Espèce d'espace, l'émission qui va vous faire aimer la géographie.
Espèce d'espace, espèce d'espace, espèce d'espace.
Alors je peux m'en aller ?
Ben oui, vous êtes libre.
Tant mieux, parce que moi j'adore ça, la liberté.
Comment est votre blanquette ?
La blanquette est bonne.
Je préfère dans le cochon, moi c'est la palette.
La situation en Égypte inquiète en plus haut lieu.
Que se passe-t-il là-bas ?
Le bordel.
Se farcir toute la traversée de Paris avec partout les flics, les poulets et les frites.
D'un expert, un spécialiste du monde arabo-musulman.
Arabo-musulman.
Il s'est fait le tuer, j'espère.
S'il fallait tuer tous les imbéciles.
Évidemment. Et pourtant, ça simplifierait tellement les choses.
C'est moins qu'on puisse dire. Que je te trimballe des poules, que je te trimballe des pastèques.
Vous avez fait faire le mieux ici ?
Après l'interview d'Olivier Millot portant sur l'espace carcéral, Espèce d'espace vous propose dans cette 16e émission de s'intéresser à des espaces également enclavés, moins par le fait de l'homme que par leur géographie. Ces espaces, ce sont les îles.
Et pas n'importe quelles îles. Il s'agit ici d'étudier les îles situées au cœur des villes.
Et plus particulièrement deux d'entre elles, l'île de la Cité à Paris et l'île de Dahab au Caire, où je me trouve actuellement.
C'est donc dans une perspective comparatiste que nous souhaitons, Corten et moi, aborder l'île dans la ville.
L'objectif est de mettre en parallèle deux îles, situées chacune dans deux grandes capitales et métropoles, pour tenter de cerner le concept d'insularité dans un contexte urbain.
Car qu'est-ce qu'une île dans la ville ? Une idée, Corten ?
Comme ça, au dépourvu, eh bien, a priori, je dirais que c'est plutôt un espace isolé, puisque fondamentalement, son intégration dans la ville est rendue difficile d'abord par les bras du fleuve qui l'entoure.
Pour sûr ! Mais alors, le fait qu'il soit relativement à part au sein de la ville pourrait amener les citadins à percevoir cet espace plutôt positivement, comme une sorte de havre de paix, loin du bruit et de la fureur de la ville. Bref, que du bon pour les citadins harassés que nous sommes.
Ne t'emballe pas trop vite tout de même. Tu oublies que l'étroitesse de l'île et sa difficile liaison avec les espaces qui l'entourent pourraient également décourager les acteurs de la politique urbaine qui voudraient l'aménager.
Et alors ? Ça n'empêche pas de l'habiter, que je sache.
Non, bien sûr, mais il n'empêche que le fait que les autorités publiques délaissent ces espaces peut les mettre en décalage par rapport à la ville qui continue, elle, d'évoluer, ce qui à terme peut les rendre moins attractives.
Ouais. N'empêche, j'aimerais bien avoir un appart sur l'île de la Cité.
Là n'est pas la question. La véritable question, celle que tous nos chers auditeurs se posent, est celle de l'habitat au sein de l'île. En tant que résident de la capitale, que ce soit à Paris ou le Caire, peut-on habiter l'île de la Cité ou Dahab ? Ou se contente-t-on de les traverser ou au mieux d'y rester temporairement ?
Bonsoir à tous. Et oui, c'est la grande nouveauté de Koh-Lanta, l'île au trésor. Alors c'est vrai, certains aventuriers vont avoir l'opportunité de découvrir ce lieu magique avec un objectif. Ah ! Trouver cet anneau qui sera caché à l'intérieur d'un coffre enterré. Ces 20 Français sont venus vivre ici un rêve. Un rêve d'aventure et de dépassement de soi.
L'île, ça fait penser à île déserte, à isolement, tranquillité, solitude. L'île, c'est le bout de terre perdu au milieu de l'océan.
Bon, en l'occurrence, ici, on parle plutôt d'île fluviale, mais le principe reste le même. L'insularité, c'est avant tout l'isolement par rapport aux terres environnantes et l'exiguïté.
Dans le cas de nos îles fluviales urbaines, île de la Cité et île de Dahab, c'est un contexte encore plus particulier, étant donné qu'elles sont entourées par un fleuve d'abord, bien sûr, mais ensuite par des villes de plusieurs millions d'habitants.
Mais qu'est-ce que ça change en termes d'accessibilité ?
On a un paradoxe. Il s'agit d'espaces isolés, qui restent difficiles d'accès, mais qui sont aussi au cœur de la grande ville, au cœur du cœur, pour reprendre les termes du rapport de Philippe Bélaval et Dominique Perrault sur l'île de la Cité.
Concrètement, il faut se demander tout de suite comment accède-t-on à ces îles ? Commençons par l'île de la Cité.
8 ponts routiers et piétons, 7 lignes de bus et une station de métro, la station Cité, sur la ligne 4. Mais une station qui fait partie des moins fréquentées de Paris, avec seulement 2 millions de voyageurs par an. Ce qui est peu comparé aux 8 millions de Saint-Michel ou aux 13 millions de Châtelet.
Apparemment, on est sur un quartier central de Paris, relativement bien desservi par les transports en commun. Mais il faut bien voir que c'est plus un espace que l'on traverse plutôt qu'un espace où l'on accède.
Mis à part pour les touristes, dont nous reparlerons plus tard, les Parisiens et les Franciliens semblent favoriser une traversée nord-sud de l'île, sans arrêt, essentiellement pour passer d'une rive à l'autre de la ville.
D'ailleurs, l'avenir des mobilités sur l'île de la Cité se pense surtout en termes de contrôle de la circulation et du stationnement automobile, ou encore en termes de développement des vedettes fluviales pour l'acheminement des touristes.
L'enclavement et l'isolement par rapport à l'environnement urbain sont plus évidents dans le cas de Dar.
L'île n'est en effet accessible qu'en felucca, c'est-à-dire de petites embarcations à voile ou à moteur, et via 5 embarcadères. La traversée dure environ 5 minutes et coûte 2 guinées.
C'est le seul moyen pour les habitants insulaires de rejoindre la ville du Caire, car aucun pont ne dessert l'île. Il y a quand même un grand pont pour le périphérique du Caire, mais il ne fait que traverser l'île sans la desservir, ce qui produit d'ailleurs des paysages très contrastés avec les terres agricoles.
On a bien ici un enclavement physique qui crée une rupture entre l'île agricole et son environnement urbain.
Mais il est à noter que les habitants semblent attachés à cet isolement. En 2011, lors de la Révolution, les liaisons en felucca ont été interrompues, en quelque sorte pour préserver l'espace insulaire de la violence urbaine.
La construction d'un pont n'est pas associée à une meilleure accessibilité, à un meilleur accès aux services de la ville, mais plutôt à une ouverture de l'île aux voitures, aux touristes, aux promoteurs immobiliers.
L'île de la Cité, comme l'île de Dahab, sont donc caractérisées presque par nature, par un isolement par rapport au reste de la ville.
Si cet enclavement semble plus marqué à Dahab que sur la Cité, on reste dans un même schéma géographique d'espace marginal, isolé, mais au cœur de la ville.
Il s'agit de comprendre désormais si cet isolement physique, matériel, est confirmé ou non par un enclavement fonctionnel et historique.
Est-ce que Dahab est complètement coupé du reste du Caire ? Comment ces îles s'intègrent ou non au reste de la ville ? Comment caractériser ces interactions ?
Paris se réveille quand les cloches sonnent dans les tours de Notre-Dame. Le pêcheur s'empoisonne, le mitre en mitronne sous les tours de Notre-Dame. Le bourdon éclatant, mille tonnerres, la clochette légère teinte claire. Et l'on dit que c'est l'âme de Paris qui s'enflamme quand sonne les cloches de Notre-Dame.
Nos deux îles sont dans des contextes urbains différents, ce qu'on a vu avec la question de l'accessibilité. Mais ce sont deux espaces qui se définissent par leur relation à la ville.
Contrairement à ce que l'on pourrait penser, si l'on reste sur le cas de Dahab, cette île n'est pas vraiment isolée. Ce n'est pas une île déserte, mais bien un territoire agricole approprié.
Malgré l'absence de services publics, pas d'école, pas d'hôpital, et l'apparence de marge rurale au cœur du Caire, il faut prendre en compte l'intégration fonctionnelle de cet espace au reste de la ville.
Les premiers entretiens avec les agriculteurs locaux révèlent que l'île est complètement inscrite dans l'urbanité du Caire, par au moins trois moyens.
La vente de la production agricole locale au souk de Dar Salam ou de El Sahara, sur la rive ouest.
Le nécessaire recours aux infrastructures publiques caérotes, comme les écoles, les universités.
Et enfin par le fait que tous les agriculteurs présents sur l'île cumulent le travail de la terre et un emploi dans la ville du Caire, la plupart du temps dans la mécanique ou l'ingénierie.
C'est-à-dire que tous les habitants, dès leur enfance, font quotidiennement le trajet de l'île au Caire. Il ne s'agit pas d'un espace autarcique ou autosuffisant.
Ce cas d'un espace au sein d'une métropole, apparemment préservé de toute urbanisation, mais en fait complètement intégré à la ville, permet de poser la question de la limite entre espaces urbains et ruraux de façon inédite.
Car Dahab, malgré son enclavement physique et sa difficulté d'accès, reste un territoire urbain, urbanisé, qui vit dans et par la ville.
De la même façon, l'île de la Cité se définit par ses rapports au reste de la capitale parisienne, mais cette fois, plutôt dans un mouvement de décentralisation.
Si l'on revient un peu en arrière, on se rend compte que l'île de la Cité est marquée par des dynamiques historiques successives de concentration, déconcentration.
Dès l'époque carolingienne, au 8e siècle, et jusqu'au 14e siècle, la cité est aménagée comme le lieu de vie principal de la capitale, comme un lieu de refuge pour les habitants, mais aussi comme le siège du pouvoir épiscopal avec Notre-Dame de Paris.
L'île est ensuite renvoyée principalement à une fonction commerciale et carcérale, avec la création de la conciergerie et le déménagement de l'hôtel du roi vers Saint-Paul.
Les travaux haussmanniens au 19e siècle renversent à nouveau la vision de l'île en faisant le siège administratif de la capitale. La préfecture de police et le tribunal de commerce s'installent à la cité.
Enfin, le déménagement en cours du palais de justice vers la porte de Clichy, comme nous en avions parlé dans une précédente émission, ainsi que la restructuration de l'Hôtel Dieu, la limitation de la circulation sur l'île ou encore la musification de l'espace, sont autant d'indices d'une nouvelle déconcentration de l'île.
La notion de cité administrative, de centralité juridique et politique est aujourd'hui largement remise en cause.
Le manque de gouvernance unifiée, car l'île est divisée entre le 1er et le 4e arrondissement, fait également que la cité apparaît comme, je cite, un parent pauvre des politiques publiques déployées dans la capitale.
Ou comme un non-territoire des politiques publiques, pour reprendre les mots de Philippe Bellaval et Dominique Perrault.
Si l'on essaie de clarifier un peu, on a donc deux espaces insulaires, au cœur de deux capitales, des espaces relativement isolés par rapport à leur environnement urbain, et qui se définissent par les relations à la ville.
Soit dans un mouvement de concentration-déconcentration.
Soit par le nécessaire recours des habitants aux services urbains.
Dans les deux cas, il s'agit d'espaces marginaux, ou en tout cas considérés comme tels, et c'est une représentation qui détermine leur aménagement futur.
Une île est une portion de terre entourée d'eau de tous côtés. Il y a peu de fleurs sur l'île aux fleurs. Il y a, par contre, beaucoup d'ordures. Il y a aussi beaucoup de porcs sur l'île. Le propriétaire du port a échangé une petite quantité de son argent contre un terrain sur l'île aux fleurs. Il est ainsi devenu propriétaire du terrain. Un terrain est une portion de terre qui a un propriétaire et une clôture. Ce terrain où les ordures sont déposées a été clos pour que les porcs ne puissent en sortir et pour que les autres êtres humains ne puissent y entrer.
Les deux îles semblent chacune faire l'objet d'une intention toute particulière de la part du pouvoir politique français ou égyptien.
En décembre 2016, à la demande du président de la République François Hollande, Philippe Bellaval, président du Centre des Monuments Nationaux, et Dominique Perrault, architecte membre de l'Institut, ont rendu un rapport sur l'île de la Cité intitulé « Mission île de la Cité, le cœur du cœur ».
En juin 2017, le président Abdel Fattah al-Sissi a, quant à lui, fait explicitement référence aux îles agricoles du Caire dans un discours portant sur la récupération des terres par les autorités publiques égyptiennes.
Si l'on peut constater un attrait récent des pouvoirs publics, tant français qu'égyptiens, pour ces deux îles, la comparaison s'arrête là.
En effet, la philosophie des deux projets d'aménagement prévus par l'État, ainsi que leur réception par la population locale, semble différer radicalement.
Les deux auteurs du rapport sur l'île de la Cité font 35 propositions pour aménager l'île de façon à, je cite, « réintroduire des activités économiques, des logements, des services de proximité, et ce tout en maintenant et la présence des grandes institutions au sein de l'île et l'attractivité touristique de celle-ci ».
Les pouvoirs publics égyptiens souhaitent au contraire faire table rase des cultures et habitations qui se trouvent sur l'île de Dahab.
C'est ainsi que le président Sissi a lancé en mai 2017 une campagne nationale d'expropriation et de démolition des bâtiments illégalement construits et dont la propriété est informelle.
L'État égyptien, propriétaire de l'île, juge que les populations insulaires occupent des habitations illégales au regard de la législation égyptienne.
Les motivations de ces projets d'aménagement diffèrent également de manière profonde. Le gouvernement égyptien semble brandir l'argument écologique pour justifier l'intervention de l'État sur l'île et les expulsions qu'elle entraîne.
Les autorités égyptiennes se présentent ainsi comme les uniques garantes de la protection des espaces insulaires et surtout des eaux du Nil.
Dans cette perspective, elles s'obligent à faire du respect de l'environnement un critère fondamental pour tous les projets d'aménagement de Dahab, dans le développement de bâtiments ou de projets de services touristiques.
Au cœur d'une ville considérée comme polluée et surpeuplée, l'enjeu est bien de faire de Dahab le véritable poumon vert du Caire.
L'aménagement de l'île de la Cité est mu par des considérations qui semblent relever plus de la politique urbaine.
L'objectif est avant tout d'éviter que l'île de la Cité ne devienne une cité administrative, ou à l'inverse un vaste parc d'attractions touristiques. L'enjeu est bien la diversification des usages de l'île, et principalement de la notion d'habiter l'île.
Parmi les principales mesures, citons ainsi la transformation des quais sud de l'île en grande promenade piétonne,
la rénovation de la place de Lutèce en uniformisant le revêtement de sol, le mobilier urbain, la signalétique et la mise en lumière, un peu à la manière de la place Saint-Marc à Venise,
ou encore la création partielle d'arcades publiques le long du quai du Marché Neuf, permettant d'accueillir différentes activités ouvertes au public.
Bref, il s'agit de faire de l'île de la Cité un quartier en soi, habitable et habité.
Enfin, l'avenir de ces deux îles dépend de la relation entre l'État aménageur et les populations locales et de la confrontation de leur représentation spatiale.
En effet, le plan d'aménagement de l'île de la Cité s'appuie sur une consultation préalable des Parisiens. Le 14 février 2017, s'est ainsi ouverte à la Conciergerie une exposition participative intitulée « L'île de la Cité à l'horizon 2040 ».
L'aménagement de l'île de Dahab, décidé par le pouvoir égyptien, s'effectue sous une certaine tension, du fait de l'absence de toute consultation entre l'exécutif et les locaux, qui restent dans l'expectative face aux initiatives du pouvoir et les menaces d'expropriation de leurs terres.
On a donc deux espaces marginaux, objets de convoitise, mais qui font l'objet de valorisations différenciées. D'un côté, il s'agit de rendre l'espace à ses habitants parisiens.
Et de l'autre, c'est la volonté d'exploiter pleinement ce qui est vu comme un potentiel écologique et touristique.
Merci de nous avoir écoutés pour cette émission tout en ubiquité.
Que vous pouvez retrouver sur radiocampusparis.org à la page Espèces d'espace.
Et rendez-vous le jeudi 3 mai.
Même heure, même onde.